Ceci est le premier brouillon vocal. Ciel de nulle part, travaille encore. Voyager seul dans la plaine, c'est ne rien voir d'intéressant pendant des heures, parfois des jours. Le moindre arbuste devient une distraction fascinante. Les formes aléatoires de ces branches, animées du faux mouvement que leur confère le passage, sont une source ténue qui abreuve pourtant l'imagination des heures durant. Les herbes jaunes et le ciel bleu ne présentent pas la moindre aspérité à laquelle l'esprit tente de s'accrocher. Une monture vivante est pour certains une salvation, dont le moindre clignement d'œil recèle tout un discours, dont le moindre renâclement suffit à nommer dialogue la logorée de tout un jour. D'autres préfèrent les montures mécaniques, propices à l'hypnose, dont le mouvement parfait se fond avec la course du soleil sur le cadran céleste. Cassandre avait passé la veille entière à justifier auprès de son raptor de bronze les raisons de son départ. Elle avait pris à témoin les flammes dansantes de son feu de camp jusqu'à tard dans la nuit, incapable de trouver le sommeil. Incapable aussi de forcer ses cuisses endolories à retourner serrer les flancs de sa monture pour une marche nocturne. Le matin avait baigné dans un pur silence, comme si tous ses doutes avaient été cristallisés par le sommeil, dans la simple action de rentrer. Désormais impuissant à nuire, grossir et conquérir, mais préservé intact, intouchable, inaltérable. Cassandre, perché sur son raptor, grand chapeau de paille protégeant visages et épaules de la morsure céleste, se laissait silencieusement porter, comme un poids mort, un sac en croupe, une machine grippée, qui attend d'arriver à destination pour être réparé. Les yeux pourtant grands ouverts, elle ne remarqua pas la créature. Son trajet était une ligne droite entre deux points sur une portion blanche de la carte. Aucune piste à croiser, aucun relief à contourner, pas âme qui vive à rencontrer fortuitement. Un départ, une arrivée, une flèche qui quitte l'arc et attend la cible, la main du destin qui l'accueille au vol. La créature s'envola et se plaça sur son chemin, sur le mince trait noir perdu dans le blanc de la carte, dans l'étroit cône du regard de l'humaine. Le trot régulier du raptor ne faiblit pas, aveugle à tout autre que ses rênes. Les mains de la cavalière restèrent inertes, pantins vidés de vie par le sommeil de leur marionnettiste. L'esprit englué contempla un long moment cette étrange proposition de son inconscient, se demandant longtemps de quel cauchemar fantasque il avait tiré cette idée à l'anatomie aussi improbable que son improbable rencontre. La créature leva un tentacule. La marionnettiste se réveilla en sursaut, la main se serra par réflexe, la monture se cabra docilement, le paquet chut et se souvint juste à temps qu'il était humain pour épargner à sa tête de heurter le sol et sauver le précieux contenu dont la créature ne faisait finalement pas partie. Cassandre se releva. Ramasser son chapeau, épousseter son cache-poussière, masser ses fesses, la douleur elle-même, tout ça n'était rien comparé à l'impérieuse curiosité qui n'exigeait qu'une chose, détailler le cauchemar trop réel qui flottait à quelques foulées devant le raptor impassible. Son anatomie était globalement simpliste. Des appendices vers le bas, des appendices vers le haut, et aucune distinction nette entre les deux. Encore moins de quoi penser la notion de milieu. Les appendices du haut, dont le noir opaque tranchait avec le ciel comme un rasoir peint une toile, ressemblaient à des antennes de fourmis malades, ou à ce qu'une araignée folle aurait pu enfanter si on lui avait expliqué comment les oiseaux volaient. Une caricature d'elle qui, au lieu de caresser tendrement l'éther de ses plumes pour le convaincre de les porter, lui plantait ses ongles dans le bleu et ne lui laissait d'alternative que la mort. Les appendices du bas semblaient jouer la même parodie avec des tentacules. Tout en tirant leur inspiration des viscères anarchiques que les poissonniers répandaient irrévérencieusement dans le bac à déchets. Aucune notion de symétrie, ni d'égalité des longueurs ou des diamètres n'avait cours ici. Invoquant des souvenirs de chevelure matinale, peignant les longues boucles noires d'une amante par les filaments violacés qui ondulaient d'une vie propre, une pieuvre même répugnante aurait eu la décence de les porter en nombre pair et de longueur égale, et de les agrémenter de ventouses pour leur donner un sens, une fonction. Fonction ou pas, l'un de ces filaments lisses était bel et bien en train de signer les mots « Salutation, viens ». L'absence de mains et de doigts était partiellement comblée par une étonnante flexibilité de l'appendice et ne laissait aucun doute sur l'impensable fait. Une créature qui rendait pieuvre, araignée et humain proches cousins venait de parler. Elle s'éloigna, flottant toujours à plus d'une toise du sol, s'arrêta et, sans éprouver la nécessité de se retourner, pas plus que son anatomie ne semblait concernée par la notion de direction, elle leva un autre appendice tentaculaire qui articula le même message. Salutations, viens. Cassandre n'avait pas encore bougé. Ses épaules suppliciées par le feu céleste la forcèrent à remettre machinalement son chapeau sur sa tête. Son esprit, encore trop sidéré par sa rencontre, semblait avoir oublié les notions comme chaud, main ou prendre, laissant le corps, qu'elle avait appelé sien jusqu'à présent, se débrouiller seul pour faire le lien entre perception sensorielle et mémoire musculaire. Elle retrouva ses esprits, à moins que ce ne soit son esprit qui retrouva le chemin de son corps, lorsqu'elle réalisa que la créature l'attendait et que pour la première fois depuis plusieurs jours, elle devait prendre une décision. La décision en elle-même fut assez simple. Oui. Elle n'avait cherché qu'une unique chose durant toute la modeste portion de sa vie qu'elle avait à présent derrière elle. Une chose qu'elle avait d'abord trouvée à travers une première mutation involontaire dans la fraternité, puis redécouverte à travers une deuxième mutation volontaire dans la sororité. Mais une chose qui chaque fois l'éludait, la laissait fouiller fébrilement dans les marges pour s'y trouver chaque fois marginale, toujours trop étrange parmi les étranges. Comment ne pas répondre oui ? Lorsque, sur le chemin résigné du retour, sur la trajectoire incurvée qui semble amorcer un cercle inextricable, de marge en marge, une porte s'ouvre ? Non, ce n'est pas une porte qui s'ouvre. C'est le rideau de la réalité qui, lassé de s'écarter timidement, se déchire, tombe, s'effondre et emporte avec lui la scène et ses personnages. C'est une divinité narquoise qui, loin de s'abaisser à répondre à une prière, pose la main sur l'épaule implorante et lui confie, dans un murmure sardonique, « Tu te crois alien ? Regarde. » La décision elle-même fut simple. La mise en application, moins. Le pire fut sa raison. Comment se justifier à soi-même d'abandonner toute perspective de ravitaillement, de couchage, d'humain, avec visage, bouche, main, à qui parler, troquer ces piécettes de métal frappées de symboles humains qui attestent la composition et la pureté contre des choses que mangent les bouches d'humains. Pourquoi est-il toujours plus facile de se mentir à soi-même pour justifier une très mauvaise idée et impossible de se mentir pour justifier le besoin le plus impérieux de toute une jeune vie ? Pourquoi est-il soudain impossible, alors que ce mensonge a marché tant et tant de fois, de se cacher derrière cette gigantesque excuse de la curiosité. Je suis curieuse de démonter cette machine. Je suis curieuse d'essayer cette drogue. Je suis curieuse d'embrasser ce garçon. Pourquoi est-ce que je suis curieuse de suivre cette créature aberrante ne fonctionne pas? Ne serait-il pas plus simple, lorsque la vérité est là, juste là, en chair, peut-être en os, de juste s'avouer « je me sens étrangement plus proche de cette créature sans visage que de chaque être humain qui m'est un jour pris dans ses bras ?» Cassandre n'en remonta pas moins sur sa monture mécanique pour suivre la créature. Son guide inhumain prit un peu de hauteur et traça une perpendiculaire au chemin initial de l'humaine. Elle observait, fascinée et terrifiée à la fois, les ailes arachnéennes plongées dans le bleu du ciel et disparaître brièvement comme une pagaie dans l'eau. Ces ondulations lui donnaient réellement l'air de nager dans l'air, comme une araignée d'eau à l'envers. Cassandre ne savait pas si elle ajustait sa vitesse à celle du raptor mécanique et fut vaguement tentée de pousser sa chaudière pour voir de quoi était capable cette natation aérienne. Les premiers moments de ce nouveau voyage furent consacrés à se demander combien de temps il durerait. Quand le soleil déclina vraiment, il parut clair que la réponse excédait une nuit. Cassandre décida que son guide serait bien obligé de l'attendre s'il... elle... tentait à ce qu'elle le... la... suive. Elle stoppa sa monture et mit pied à terre. L'araignée du ciel ralentit, revint, descendit de sa toile céruléenne. « Viens !» signa un tentacule. « Viens » articula-t-il lentement, se pliant méticuleusement pour imiter un poignet humain. Cassandre déchargea son barda et en exhiba une timbale et une couverture. « Manger, dormir !» dit-elle sans espoir d'être comprise. « Je ne sais même pas si tu as un estomac là-dessous, mais moi j'en ai un. Si tu tiens tant à ce que je te suive, tu vas devoir m'attendre, tu comprends ?»« Attendre !» fit-elle en étalant son couchage avec emphase. La créature s'approcha encore un peu et signa « Salutations !» Cassandre reposa le briquet dans le sac, soupira, gloussa, se releva et signa amplement « Salutations !» ajoutant à voix haute « Oui, c'est vrai, bonjour !» Notre rencontre a été un peu rapide. Elle signa « Je vais manger, je vais dormir, je vais te suivre !» Les tentacules imitèrent laborieusement la variante à la première personne du futur de « suivre ». Ah, tu ne connais pas beaucoup de gestes, hein? J'imagine que quelqu'un t'a fait apprendre par cœur « Salutation, viens ». Tu serais un messager? Un messager de quelqu'un qui parle la même langue que moi? La vague d'amertume, à la perspective d'une prochaine rencontre trop humaine, fut balayée par la réaction de la créature. Elle s'approcha. Rien de plus. Elle descendit d'une demi-toise, ses plus longs tentacules palpant distraitement les herbes hautes, et s'approcha de Cassandre plus qu'elle ne l'avait encore fait. Elle s'immobilisa à seulement quelques pas, à échelle humaine, pourtant. Elle étira ses ailes en un vaste dé, dessinant un réseau noir sur le sombre du ciel où sourdaient déjà les premières étoiles. La broussaille vivante de ses tentacules se détendit, se dénoua, esquissa son ampleur normale. Cassandre frémit, réalisant que, malgré une distance qui aurait été considérée comme respectueuse par un humain, les extrémités de ses antennes aériennes surplombaient sa nuque, et les flagelles, pour l'instant paisibles, étaient d'ores et déjà en mesure de l'atteindre. Elle se demanda ce que ses deux petits bras aux articulations limitées auraient pu faire si... Si quoi? Cette créature était bien plus grande qu'elle, au moins aussi rapide que son raptor mécanique, probablement assez forte pour l'immobiliser, voire pire. Si elle avait voulu la tuer, que mangeait-elle? Elle l'aurait fait depuis longtemps. Cassandre tenta de chasser ses cauchemars, qu'elle peinait à considérer comme véritablement absurdes, mais les flagelles se tendirent vers elle. La créature assembla lentement une sorte de nœud devant elle, un gros amas de chair filandreuse que l'obscurité grandissante rendait indistinct. Soudain, l'illusion fut frappante. Une tête, des épaules, deux longs tentacules ballants en guise de bras. Était-ce une modeste poitrine que ces deux sinuations étaient censées refléter? Malgré la profonde incongruité de la situation, Cassandre ne put s'empêcher de se sentir vexée. Les deux faux bras imitèrent son geste, s'arrondissant pour amener deux fausses mains sur l'étrécissement d'une imitation de taille, en dessous de laquelle les fines extrémités des flagelles pendaient vers le sol, comme une poupée sans jambes. La marionnette à taille humaine brisa le jeu de miroir et salua, écartant les bras et inclinant la tête. Avait-elle une perruque de tentacules qui ondulait avec sa courbette? Cassandre médusée lui rendit son salut. La nuit naissante et l'ombre des ailes laissaient imaginer un visage. La marionnette tendit lentement les mains. L'humaine tenta de maîtriser sa respiration. Son cœur s'emballait, le sang lui montait à la tête. La peur? Non, une terreur gigantesque face à l'extrême étranger, oui. Mais plus aucune peur, plus aucune inquiétude, seule une parfaite confiance, témoin de cette singulière tentative de qui cherche à jeter un pont au-dessus du gouffre cosmique qui les sépare. Communiquer. L'humaine tendit la main. La marionnette baissa un bras et imita son mouvement. La main s'approcha, le flagelle s'approcha. Un bout de doigt effleura la pointe du tentacule. Une longue seconde d'immobilité symétrique s'écoula. Cassandre embrassa l'inspiration qui lui vint. Elle prit délicatement le flagelle dans sa main. Lisse, impossiblement lisse. Le flagelle hésita un instant, puis imita les doigts et s'enroula autour du poignet. « Voilà, » murmura Cassandre. « Ça veut dire bonjour, chez moi. » Elle prit conscience du silence au moment où il se brisa. La créature répondit. Un doux ululement enfla, se modula, ondula encore, puis mourut. Un frisson parcourut l'humaine. C'était comme si le corps entier de la créature, de sa vaste ramure jusqu'à ses longues racines, avait vibré d'une brève mélodie sous un archet invisible. Mains et flagelles se dénouèrent. Cassandre, dit-elle en se désignant. La marionnette tendit un bras vers, si absurde et pourtant si vrai, le marionnettiste tentaculaire derrière elle, et l'arbre de chair ulula à nouveau. Seiva, tenta de répéter l'humaine avec ses humbles cordes vocales. Quelques flagelles, les bras de la marionnette, sa jupe de tentacule, ses cheveux frisés, d'autres sur le marionnettiste derrière, s'entortillèrent en vrilles de vigne. Cassandre ne savait pas comment interpréter ça, mais qu'aurait compris une araignée en la voyant hocher la tête ou froncer les sourcils? C'est alors que le dernier rayon de soleil disparut. Dans un monde à l'horizon si plat, la frontière entre jour et nuit est nette. La brise fraîchit d'un coup. Cassandre retrouva à tâtons le briquet oublié, creusa une petite fosse au jugé et prit une bûche dans le paquetage du raptor. La vive flambée d'herbe sèche lui rendit la vue et dura assez longtemps pour lui permettre d'organiser le reste de ses affaires, avant que la bûche ne prenne le relais pour cuire son repas. Sa mère lui avait laissé une gamelle de gruau épicé pour le voyage. Il lui restait encore quelques jours de pain et de viande séchée. L'eau ne tarderait pas à être un problème si son nouveau chemin continuait à la plonger dans le blanc de la carte. La créature n'avait pas bougé. Elle avait simplement dénoué sa marionnette et semblait observer les préparatifs. Cassandre se demanda comment elle percevait son environnement. Elle n'avait rien de visible qui puisse ressembler à des yeux, même de loin. À la lumière du feu, découpée contre le ciel, éclaboussée d'étoiles, avec son faisceau de tentacules et sa voilure déployée, elle ressemblait vraiment à un arbre. Un arbre au pied duquel elle n'avait étrangement aucune crainte de s'endormir.